16h12, bienvenue chez vous à Boulevard 102.1, bienvenue chez nous dans le retour. Mon nom est Denis Gravel, Véro, Audrey, toute la gang vous salue. Un peu plus tard, Gab Marino va se joindre à nous pour jaser de sport avec son top de sport. Le Canadien qui a perdu deux matchs très rock'n'roll en fin de semaine. Alors que demain, c'est un match de 4 points maintenant que les filles savent ce que ça veut dire.
Ah, oh, c'est tellement méprisant quand tu dis ça de même.
Quoi?
Je le savais très bien c'était quoi. J'ai demandé à Max de l'expliquer parce que c'est pas tout le monde qui suit le hockey comme vous autres.
Ouais, moi je suis intelligente, mais je pose la question pour les gens qui le sont moins.
Non, je pose. J'aime la démocratie de l'information et ça inclut le sport, tu sauras.
Donc un match de 16 points demain entre le
c'est
Canadien.
C'est quoi un match de 16 points?
C'est encore plus important qu'un match de 4 points. C'est...
Bon, les filles voulaient savoir c'était quoi.
Fais ton calcul, là, un match de 16 points, c'est 10 fois plus important qu'un match de 4 points.
Fais tes maths.
Vous dire que on a 3 degrés présentement à Québec, le mercure est en hausse pour atteindre 12 au cours de la nuit, rafale de vent jusqu'à 70 km/h et, mon Dieu Seigneur, demain de la neige en matinée et encore une fois des rafales de vent qui vont peut-être monter même jusqu'à 90 km/h. Température à la baisse dans la journée de demain pour atteindre moins 9 degrés en après-midi et moins 15 au cours de la nuit. Retour au calme mercredi, on prévoit du soleil avec un maximum de moins 6. Sur les routes, ça se passe comment, Audrey?
Quand même difficile. Si vous êtes sur la capitale, c'est direction est, surtout dans le coin de Robert Bourassa. Ouest, c'est dégagé. Il y a des problèmes, ceci dit, sur Laurentienne, direction nord, hauteur Wilfrid Hamel. L'entrée des ponts, direction sud, que vous arriviez de Duplessis ou d'Henri IV à partir de Versant Nord, on sent le ralentissement jusqu'au pont La Porte. Ralentissement inhabituel sur Henri IV nord, je vous dirais, à la hauteur de la capitale. Un peu plus haut dans le coin de Shannon, devant la base militaire. Route de la Bravoure dans les deux directions. Il y a des problèmes également sur la rive sud. Sinon, je vous dirais 20 ouest, hauteur Chemin des Îles et un peu hauteur Taniata. Si autre chose, 418-971-1021 texto.
Pour nous écouter au-delà de la voiture, n'oubliez pas qu'il y a la nouvelle application Boulevard partout où vous allez. Et même ailleurs, c'est gratuit, ça s'installe rapidement. En deux clics, vous nous suivez live ou encore vous faites du rattrapage. L'application gratuite disponible sur Apple et Android. Vous écoutez Boulevard en direct également sur votre ordinateur, blvd.fm avec la web radio, ou vous utilisez votre haut-parleur intelligent Google Home, Alexa, Ziggy et ainsi de suite. Écoutez BLVD 102.1. C'est simple, c'est pratique et c'est pas plus compliqué que ça. Il n'a pas chômé aujourd'hui. Il vient nous présenter deux dossiers. Un concernant tout ce qui s'est passé avec le hockey en fin de semaine. Et l'autre, ben, on va retomber assez vite dans ce qu'on va appeler l'actualité municipale. Mathias Turcotte est avec nous autres. Salut Mathias.
Ben, salut.
Ça va bien?
Ça va très bien.
Oui, Mathias, que vous pouvez rejoindre évidemment à l'adresse citoyen@blvd.fm pour soumettre des dossiers qui méritent notre attention. Ça a brassé en fin de semaine dans le sens négatif du terme et encore une fois, c'est le hockey qui en prend pour son rhume. Un parent qui est sauté dans le dos d'un arbitre. T'as parlé avec Enrico Ciccone ce matin.
Oui, porte-parole de l'opposition en matière de sport et ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, ancien Duracuir. Je pense que beaucoup de personnes ont maintenant vu la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux de cette altercation-là, littéralement l'homme qui a sauté dans le dos, comme tu as bien dit, l'arbitre qui a été transporté à l'hôpital par la suite, il y a eu des douleurs à l'épaule, au bras, c'est le genre de situation qu'on veut pas voir dans nos arénas, on va être honnête. Justement, j'avais une question pour M. Ciccone, cet homme-là, c'est quoi qu'il attend, quel jugement? Est-ce que cet homme-là va remettre les pieds dans un aréna? Voici sa réponse.
Ben, je dis, écoutez, moi, je pourrais, comme je vous dis, il faut que je fasse très attention, parce que vous savez que le judiciaire est complètement indépendant du législateur, là. Je voudrais pas non plus influencer. Moi, je sais ce que je donnerais si j'étais juge. Je vais le garder pour moi. Mais bon, tu sais, c'est sûr que c'est une possibilité. Puis ça va voir, ça va être au juge de décider. Mais on l'a déjà vu dans le passé, là. Tu sais, il y a des parents, il y a des joueurs de hockey qui ont été bannis à vie aussi. Puis il va y avoir peut-être des sanctions au niveau de la Ligue aussi.
Je propose que, pour avoir comparé les deux ligues, le deck hockey semble beaucoup plus proactif que le hockey régulier pour les suspensions.
Ah, mais c'est souvent des joueurs qui vont être suspendus, par exemple. Là, oui. on parle de quelqu'un qui encourageait, entre guillemets, mais ils sont très proactifs, puis tu as accès à toutes les listes des joueurs qui ont été suspendus pour s'assurer qu'un joueur qui a été suspendu dans une ligue ne s'essaye pas, mettons, dans le secteur de Saint-Og ou encore ça arrive ça.
C'est troublant parce que des adultes suspendus pour s'être comportés en moron, il y en a une maudite gang. Puis ça reste des comportements violents dans le cadre de la pratique d'un sport.
Absolument.
Je ne suis pas juge non plus, moi, mais je peux-tu te dire que je considérerais comme des facteurs aggravants le fait que l'adulte est en situation où il y a un apprentissage sportif, un contexte où tu dois te comporter encore mieux qu'ailleurs parce que c'est des jeunes qui sont en train d'apprendre. Puis oui, ils apprennent encore dans le junior. By the way, là, je comprends que c'est des grands ados, mais le résultat reste le même. C'est un aréna où on pratique notre sport national. On a des jeunes arbitres qui sont de moins en moins nombreux parce qu'ils sont écœurés de se faire crier des noms par des parents qui ne sont pas capables de contrôler leurs pulsions puis leurs émotions. Là, on en a un qui s'est fait littéralement agresser à la fin d'une game puis qui n'a même pas pu voir les coups venir. Ça a été fait de la façon la plus pleutre, la plus jaune, la plus dégueulasse par un gars qui, vraisemblablement, se croit tout permis d'un aréna. Puis je me dis que si t'es de même dans l'aréna, il y a des bonnes chances que tu sois de même au resto, au cinéma, d'une salle de spectacle, au bord du coin, avec ta famille, puis ainsi de suite. Là. C'est pas arrivé de nulle part, là, avec l'élan qui s'est donné, la préméditation qu'il y avait. Je comprends là, qu'il y a du monde chaud dans les arénas une fois de temps en temps, mais c'est pas vrai qu'à chaque fois que quelqu'un prend une bière de trop, il saute sur l'arbitre ou il saute sur la glace pour se battre avec des joueurs. Voyons donc.
Puis des parents qui se battent dans le junior, ça arrive. Là, c'est inacceptable.
C'est malheureux.
Mais ça arrive. Ça m'est arrivé souvent d'aller voir des parties de junior 2A, qui est maintenant junior B, là, dans la nouvelle nomenclature, mais qui était anciennement junior 2A. Que ça, la partie finissait surtout en séries éliminatoires, puis c'était bagarre générale dans les estrades, les parents, ça se tapait sur la gueule. C'est rendu qu'il y a présence policière à la majorité des parties de séries éliminatoires en junior, au junior 2A. Lorsqu'il y a un match, numéro 7, junior 2A, junior B, là, en Beauce, du moins, lorsque j'y vais dans un match numéro 7, tu sors de l'aréna, il y a des chars de police qui attendent dans le parking pour pas que ça dégénère. Mais là, encore une fois, on parle de parents. On parle de deux débiles qui se battent ensemble dans les estrades. C'est pas quelqu'un qui s'en va battre un arbitre qui a absolument rien demandé. Là.
C'est une agression criminelle. Il faut même sortir ça du cadre sportif et dire on n'accepterait pas là, que quelqu'un se donne un élan en courant sur le trottoir pour sauter dans le dos d'une personne âgée.
Avec raison.
C'est la même chose. Puis moi, je trouve que le contexte est aggravant. Et je pense que du côté du hockey, on doit être hyper sévère aussi. Je reprends mon exemple du deck hockey. Des gens qui sont suspendus pour plusieurs années parce qu'ils ne savent pas se comporter. Ouais. Je pense qu'on doit se donner le même code pour les spectateurs et pour les parents qui ne savent pas vivre. Puis moi, je vous l'ai dit en début d'émission, t'sais, moi, j'ai vu une conversation de coach au début de l'année, puis il y a un coach qui a fait « Yes, j'ai pas ce gars-là dans mon équipe. » Je trouvais ça spécial.
C'est chien, c'est un enfant. Pourquoi
ouais,
il dit ça à propos d'un enfant?
J'ai dit « Ah ouais? » J'ai dit « Pourquoi? » Elle dit « Parce que sa mère n'est pas gérable.
Ah. »
Tellement triste.
Parce que sa mère...
Hey, tu donnes comme bagage à ton enfant, ta propre personne, c'est horrible.
Sa mère est incapable de se contrôler. Elle crie après les arbitres, elle crie après les coachs, elle crie après son enfant pendant la game. Elle n'est pas tenable. Mais année après année, c'est toujours le même problème qui se perpétue. Pourquoi? Ben parce qu'on est trop permissif. Attendons pas que ce soit des claques à gueule qui revolent comme on a vu en fin de semaine. On les connaît, nos trous de cul d'aréna, là, particulièrement dans les petits milieux. Puis, tu sais, même à Québec, on finit par les connaître, là. Ben, à un moment donné, soyons conséquents, puis ceux qui sont pas capables de se tenir, ben qu'ils restent dehors. On fait ça au casino avec du monde qui sont pas capables de se retenir.
Ils sont sur une liste noire.
Ben, ça prend une liste noire d'aréna. Puis moi, je pense qu'à partir du moment où tu es banni d'un aréna X, ben, tu rentres plus dans les arénas. Ouais, mais mon show de Scorpion au Centre Vidéotron, ben, t'avais rien qu'à y penser avant, trop dur.
C'est tellement poche, parce qu'encore une fois, tu mets ça sur le dos des pauvres organisations qui n'ont pas tous les moyens du monde, qui vont être obligés d'avoir des gens qui vont surveiller ça. Je peux pas croire que des adultes sont pas capables de se tenir. Puis là, je sais qu'on parle de ça actuellement, puis il y a sûrement un pourcentage de la population égale partout qui est de même. Il y en a peut-être qui nous écoutent, puis ils entendent ça, puis c'est même pas eux autres le problème. Sont capables de les spotter, mais eux ont des comportements comme ça, mais dans leur tête, pour eux, c'est justifié. Parce que dans le cas de leur enfant, là, c'est injuste. Fait qu'il avait le droit de crier, il avait le droit de pousser.
Puis pour l'enfant, c'est tellement gênant, là, une situation de même, que c'est ton parent qui fait le cave dans les estrades. Juste de base, pour avoir joué au hockey toute mon enfance, les parents qui gueulent dans les estrades, puis qui insultent les arbitres, puis même des fois, qui insultent les joueurs sur la patinoire, là, ça arrive, un jeune joueur prend une mauvaise décision, les parents dans les estrades commencent à gueuler après, à l'insulter, il n'y a rien de plus tannant, puis qui nous tape sur les nerfs, que ça, en tant que joueur d'hockey.
Un auditeur qui nous écrit, Antoine, on le salue. Il dit, même dans le temps, c'était pareil. Ma mère a été gérante pendant 7 ans sur mes 12 années de hockey. C'est toujours les mêmes parents qui foutent la merde. Je suis pas surpris. Je suis pas surpris du tout, du tout, du tout. Mais on n'est pas sévère, on tolère, on endure. Puis il y a de plus en plus d'autogestion, ce qui en soi est une bonne chose, tu sais. On en parlait dans le Pit-Stop ce matin. Jeff Fortin est coach, lui. Puis ça y est arrivé d'aller voir sa gang de parents pour dire, hey, on se calme, les amis, là. L'arbitre a peut-être pris une mauvaise décision, mais l'arbitre, c'est un jeune, comme vos jeunes, qui apprend comme vos jeunes. On est tous dans le même bateau. Là. Il dit là, vous faites mal à l'équipe, par exemple, si vous continuez de faire ça. Il y a des parents qui vont s'avertir entre eux autres aussi. Bravo à ceux qui le font. Moi, je ne suis pas fait de même. J'aime mieux complètement m'isoler d'un coin de l'aréna que de jouer à la police du qu'est-ce qui est tolérable et qu'est-ce qui n'est pas tolérable. Mais tu sais, une fois de temps en temps, tu entends des commentaires que je trouve qui n'ont pas d'allure. Tu sais, quelqu'un qui tombe, il appelle l'ambulance, puis tu entends un des parents qui dit « Hey, maudit fake. » Come on, là.
Travaille ton volume d'intérieur. C'est pas assez intelligent pour pas penser des affaires de même.
Ouais. L'autre dossier sportif qui a retenu l'attention en fin de semaine, Mathias, c'est les agents qui commencent à recruter les jeunes très, 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 très jeunes pour devenir des futurs millionnaires de la Ligue nationale.
Des jeunes de 10, 12 ans, là, des jeunes pee-wee qui se font recruter par justement des agents de joueurs. Quand on s'entend à cet âge-là, on ne sait pas nécessairement s'ils vont être si bons que ça. Quand ils vont vieillir, on va s'entendre. J'ai parlé justement à Enrico Ciccone de ça également, puis ça, c'est intéressant parce que lui, il a déjà travaillé avec des agents de joueurs par le passé. Puis il me racontait qu'à l'époque, on avait déjà recruté des jeunes de 14-15 ans. Puis lui, il disait, à cette époque-là, c'était un gros malaise de le faire. On faisait pas signer de contrat, mais on les approchait même jeunes. Puis on trouvait ça jeune dans le temps. Fait que j'ose pas imaginer 10-12 ans. Et il a également tenu à rappeler une chose en particulier. C'est que c'est le parent qui signe ce contrat-là, pas le jeune en particulier.
Mais en même temps, là, au niveau légal, là, le joueur, lui, c'est pas le joueur qui signe le contrat, là, c'est les parents, puisqu'ils sont les tuteurs de l'enfant. Mais rendu à 18 ans, là, si le jeune ne veut plus avoir cet agent-là, je veux dire, il va falloir re-signer un autre contrat. Fait que, dans le fond, ça donne quoi de signer ce genre de contrat-là? Moi, j'ai toujours pensé que si tu veux bâtir une relation, bâtir une relation, je veux dire, avec des joueurs, mais en même temps, faire signer des contrats, ce genre de choses-là, puis 12 ans. Tu sais, je veux dire, tous ceux qui connaissent le hockey un petit peu, là, c'est très bien qu'à 12 ans, là, tu as des joueurs étoiles partout.
Ouais, puis faut faire attention. Moi, j'essaie de m'imaginer me faire approcher, tu sais, par un gars cravaté qui se présente comme un agent. Puis qui s'en vient.
Miroiter un bel avenir.
Qui s'en vient. Ben, moi, le gars se présente comme un agent, je vais dire, ouais, mais moi, ma carrière radio, je suis bien, je pense pas que j'aie besoin d'être représenté ou whatever. Je dis, non, je suis là pour ton flot de 12 ans. Es-tu malade, toi? T'es mon flot de 12 ans, là? Puis quand ben même que ce serait le Wayne Gretzky de sa ligue, là.
À ta minute, pareil.
Hey, regarde, tu reviendras, mais qu'il y a 17, là. Ça va, René Angélil, là? C'est les nerfs, tabarnouche. Ça n'a pas de maudit bon sens. Il joue au hockey pour le fun. On va le laisser avoir du fun encore un peu, là, avant d'y mettre la pression d'un agent sur le dos.
Puis tu l'as dit, faut pas oublier que le hockey, avant tout, c'est un sport, c'est un jeu, c'est pour le fun. Hey, à 10-12 ans, on peut-tu laisser les jeunes s'amuser, avoir encore du fun avant de leur mettre bien gros de la pression, puis leur faire à croire qu'il faut absolument qu'ils fassent la Ligue nationale, sinon c'est un échec? Laissons-les grandir, laissons-les s'amuser. Pas obligé de tout de suite embarquer dans le sérieux.
Il y a des commentaires qui nous ont été partagés. Moi, Denis, quand un parent me crie après, j'arrête le jeu, peu importe ce qui se passe, puis je le crisse dehors. Je suis un arbitre. Tant qu'il sort pas, je ne recommence rien. Je savais pas qu'un arbitre avait cette autorité-là, mais bravo de l'utiliser parce que ça doit être intimidant une fois de temps en temps. Tu sais, il y a des parents qui sont assez costauds et bourrus, là, quand ils sont pas de bonne humeur, puis c'est les flots qui arbitrent, là. Je comprends qu'il y en a des plus vieux, puis il y a des arbitres d'expérience, mais des fois, c'est des jeunes. ils ont le même pinch doux que les joueurs qui jouent à côté d'eux autres. Là, tu sais, c'est pas évident. C'est plate de voir que ça existe encore. Puis il y a quelqu'un qui nous disait, regarde, mais garçon, on joue M7, M9. On entend déjà des absurdités dans les estrades. Tu sais, c'est des flots. Ça n'a pas de Moses de bon sens. Hey, l'autre dossier que tu as suivi pour nous autres, Gab, c'est quoi?
Gab. Tantôt le top de sport, Denis. C'est bien, mais tu as évolué. Tu te rapproches de Mathias.
Ouais, c'est ça. Petit à petit, il va peut-être connaître mon nom d'ici 2-3 ans.
Je le connais, ton nom.
C'est ta face qui connaît pas.
Contrairement aux jeunes producteurs qui travaillent avec nous autres, Alexis. Toi, ton nom, je le connais. Oui, c'est Alexis. Il sait que je le sais maintenant. Okay. Oui, j'y ai dit bonjour, Alexis, ce matin.
Ouais. C'est sûr que c'était pris une note dans un
Non, surtout qu'il l'a dit à quelqu'un d'autre qu'Alexis.
Mais là, je t'ai écœuré de te changer de nom, par exemple. Je m'excuse. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé, Mathias.
Hey, c'est pas grave, pour vrai. Je te pardonne, Denis. C'est correct.
Tu l'as quand même appelé.
T'aurais dû l'appeler Daniel. Comment, t'as pas été assez vite, celle-là?
Je pense que Max Larouche est plus insulté quand je le change de nom, parce que quand je le change de nom, je l'appelle Max Truman.
Puis il aime pas ça. fais
ça, Yang, pour l'écœurer. Mathias.
Oui, aujourd'hui, il y avait une annonce d'un financement du provincial à hauteur de 2,8 millions de dollars. Ça, c'est pour le projet de Carrefour de l'eau, qui est une usine de recyclage de l'eau qui va être située à Québec. Elle devrait voir le jour en 2030. C'est un beau projet parce que présentement, on recycle pas d'eau au Québec. En général, okay. Là, c'est un projet de 7,5 millions au total. Il va avoir 2,8 millions de la part du provincial. Mais Jean-François Simard, le ministre responsable de la capitale nationale, également ministre des Ressources naturelles et des Forêts, était présent pour faire l'annonce. On en a donc profité pour faire un scrum par la suite, lui poser des questions sur l'actualité du jour. Puis l'actualité du jour municipal de la région, c'était les fameux arbres du tramway, parce que le maire de Saint-Augustin est sorti aujourd'hui, Sylvain Junot, qui dénonçait justement la coupe des arbres, alors que le financement n'est pas assuré. Le maire Bruno Marchand a répondu en le traitant de l'apôtre de l'inertie.
Oui.
Une réponse quand même assez corsée, on va se dire. Donc, on a posé la question à Jean-François Simard. Est-ce que lui, de son côté, il trouve que Bruno Marchand va vite avec l'abattage des arbres? Est-ce qu'il devrait attendre? Je vous dis tout de suite, j'ai fait un montage de ces quatre réponses, parce qu'on a dû poser la question quatre fois. Puis là, je tiens à préciser, si vous commencez à vous dire « Hey, il n'a pas choisi les bons extraits parce que ça ne parle pas pantoute de ça. »
C'est pas de ta faute, c'est pas de toi,
Sylvie. Toutes les questions, c'était en lien avec l'abattage des arbres.
OK, c'est un montage de toutes les réponses.
Exactement.
À 3-4 fois la même
question.
4 fois.
OK.
Alors moi, je pense qu'il y a eu un référendum très clair sur l'enjeu du tramway lors de la dernière campagne municipale. Vous soulevez un enjeu très important quant au financement du fédéral dans le tramway. On s'attend à un financement de 40 %. Et ceci étant dit, ce qui est important, c'est que nous ayons le financement du fédéral. Écoutez, moi, je suis ministre responsable de la Région de Québec. Je suis là pour rassembler. Et donc, je ne vais pas m'immiscer dans les commentaires des uns et des autres.
Bon, fait que si les arbres se cherchaient un défenseur supplémentaire, ils l'ont clairement pas trouvé, hein, Jean-François Simard.
Mais le maire Marchand s'est pas trouvé un appui non plus pour l'abattage de ces arbres-là.
Du côté rassembleur, on repassera aussi.
On repassera, hein, ouais, c'est ça.
Hey,
je ne fais que passer.
Quand tu te trop proclames rassembleur dans la région,
jamais bon, ça. Jamais bon, ça.
Mais là, étant donné qu'on n'a pas eu de réponse pour les arbres, on s'est dit, hey, on va avoir une réponse pour le financement. Bruno Marchand dit... Le financement, c'est réglé, c'est assuré. J'ai donc posé la question à deux reprises à M. Simard. C'est-tu vrai que le financement est assuré? Je vous laisse entendre sa réponse.
On attend ce financement. Moi, j'ai bon espoir. J'ai une assurance morale que ce financement arrivera. Moi, j'ai confiance que nous allons réunir toutes les conditions gagnantes, y compris les conditions financières, afin de mettre le projet du tramway sur les bonnes voies.
Il ne sait pas, là.
Non, il sait pas.
On a eu beaucoup de réponses, hein? Ben, ce qu'il dit, lui, il continue de marteler qu'il faut 40 % du fédéral. Mais en même temps, je tiens à dire, parce que il confirme pas que le financement il est finalisé, il fait juste dire qu'il faut 40 % du fédéral. Mais en même temps, si lui, il prend position puis il dit... Même si on n'a pas 40 % du fédéral, on va de l'avant, ben, ça donne pas le goût au fédéral de donner 40 % non plus.
Dans les dernières années, le ministre responsable de la Région de Québec, on avait l'impression qu'il était installé à la table des petits et qu'il y avait la table des grands dans les ministres de la CAQ. Il reste-tu juste une table des petits?
J'ai l'impression que la table des grands sont toutes parties en même temps que François Legault. Là.
J'ai l'impression que oui. Hein?
Ouais, hein?
On a comme fait, hey, nous autres, on s'en va prendre un verre ailleurs, les enfants rester ensemble, ben, on va vous mettre un film.
De toute façon, c'est pas nous autres qui va organiser le prochain souper.
Non, c'est ça.
Mais ayez espoir parce que M. Simard a une dernière chance. On a traité d'un dernier dossier, Q-Scale, une entreprise de Lévis, qui pourrait être vendue à une grande entreprise américaine. C'est revenu dans l'actualité aujourd'hui. Le gouvernement provincial Investissement Québec avait investi 90 millions dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'il pense de tout ça?
Pour l'instant, je ne ferai pas de commentaires sur ce dossier en particulier. Je laisserai mes collègues qui sont responsables de la chose le faire. Donc, nous faisons nos devoirs pour protéger ce qui doit être protégé, mais je laisserai mes collègues qui sont en charge de ce dossier. J'en ai déjà beaucoup pour la région de la Capitale-Nationale. D'ailleurs, on va en parler dans les instants qui viennent. Alors, je laisserai ce dossier spécifique à mes collègues.
Finalement, il n'a pas parlé des dossiers de la Capitale-Nationale dans les instants qui viennent.
Fait que les enfants, je vous ai loué un VHS. Voici un sac de pop-corn. Arrangez-vous.
Mais c'est triste. Je pensais pas qu'on pouvait faire pire comme ministre responsable de la région de Québec pour nous montrer à quel point le ministre n'a aucune importance et aucun impact. Lui, au moins, a l'humilité de le dire. Là, je me mêle pas des dossiers parce que je ne sais rien. Là. Alors que Jonathan Julien était emporté par son enthousiasme. Il a de la bien fin. Jonathan, t'as le goût d'aller prendre une bière avec, mais on avait tout compris qu'il colle zéro shot pour la région de Québec. Le manque de considération de la CAQ pour la région, là, on le voit dans des...
Puis là, je tiens à dire, il aurait pu refuser de faire un scrum après, parce que lui, il venait pour une annonce. Il aurait pu dire non, on fait pas de scrum. Il a accepté. Il a répondu à aucune question.
Ça va me faire plaisir de pas répondre à vos questions, messieurs les journalistes. Hey, merci... Mathias.
Ça fait plaisir.
T'as failli te tromper, hein?
J'ai failli me tromper encore.
Comment t'allais l'appeler?
Je le sais plus. Mathias Turcotte.
C'est-tu le manque de café qui te fait ça, Denis?
Peut-être.
C'est ton thé.
C'est, ouais, vous riez de moi avec ma théière d'investi.
Mais non, mais attends, c'est pas qu'on rit de toi, là. C'est que.
C'est drôle de te voir en train qu'un infuseur.
T'es en train de faire une circulation avec Mathias commence à nous jaser, là. Puis Denis sort son espèce de gros appareil d'évidité où tu peux faire un. Un thé par en bas. Ah, il dirait qu'en des deux jambes.
Bravo.
Un thé par en bas libre, là. Puis là, tu mets ça sur ton truc, tu pèses sur le piton, puis ça coule.
Ouais, c'est ma blonde qui m'a donné ça.
Et là, il se coule son thé, lui-là, là, devant nous autres de même.
Ben, toi, tu manges un set service à tous les après-midi dans nos faces, puis on chiole pas.
C'est vrai, je suis juste pas habituée de te voir te préparer de quoi de même.
Hey, on a reçu des questions sur le texto 418-971-1021 à la question c'est un ministre ça?
La réponse est malheureusement
Jean-François,
oui.
Jean-François Simard, qui est effectivement ministre des Ressources naturelles et des forêts et ministre responsable de la région de la Capitale.
Mais ton image est bonne. Je pense que tous ceux qui étaient à table des grands, là, ceux qui dirigeaient la CAQ à partir de Montréal, sont tous partis.
Ils ont tous annoncé qu'ils s'en allaient.
Puis là, ben, les autres sont en train de répandre le spaghetti.
Ils sont en train de se salir. Je ne comprends pas qu'il n'ait pas répondu à la question des arts. Pourtant, il est ministre des Ressources naturelles
ben
et
oui,
des forêts.
Ben oui, il aurait pu dire que ça le dérange un peu.
Il aurait pu dire
j'aime les arbres.
Il aurait pu dire n'importe quoi d'un côté ou de l'autre, mais pour vrai, il a dit le projet va de l'avant. Dans ce cas-là, tu dis c'est correct qu'il coupe les arbres. Pour moi, c'est une prise de position facile.
C'est la question la plus facile de l'univers. Il n'y a rien qui se bâtit en ne faisant rien. Tu peux même faire de l'éditorial sur ce qu'on va appeler l'indignation sélective.
Mm-hmm.
Depuis quand que le parti... de Stéphane Lachance, c'est le parti pour sauver des arbres.
Alors qu'il y a eu des coupes illégales dans certains secteurs de développement puis qu'on les a jamais entendus se lever.
Incroyable. Non, mais la Haute-Saint-Charles, on voulait pas faire des quartiers résidentiels avec ça, non, OK.
Hey, merci Mathias.
Ça fait plaisir.
Philippe, qui nous écrit un grand texte, puis moi, je trouve que sa réflexion est très bonne. Il va peut-être être surpris de ma vision des choses. Il dit, je trouve ça fascinant de voir l'indignation sélective. Quand un enfant joue dans une publicité télé, genre les annonces du lait, les jumeaux dans l'œil du cyclone, personne ne dit rien, ils sont bien cute. Pourtant, ces jeunes-là ont des agents, des agences et des contrats. On trouve ça normal. Mais quand un jeune exceptionnel au hockey est encadré pour structurer son parcours, là, tout le monde crie au scandale. Soyons cohérents. Dans tous les domaines d'élite, les talents sont identifiés tôt et encadrés par des professionnels. C'est pas nouveau. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas généraliser. C'est pas vrai que les jeunes de 12 ans au hockey ont tous des agents. On parle de cas extrêmement rares quand un jeune démontre un talent vraiment exceptionnel. un genre de Céline Dion, par exemple. Dans le cas précis de Liam Tepp, selon l'article, son père travaille à la voirie, sa mère en informatique. Ce sont des parents comme bien d'autres. Ont-ils forcément les contacts, l'expérience ou l'expertise pour gérer seul tout ce qui vient avec l'attention autour de leurs jeunes très talentueux? Je suis d'accord avec tout ça, Philippe. Je fais pas de l'indignation sélective. Personnellement, je suis autant mal à l'aise avec des jeunes dans le monde de la musique, des jeunes dans le monde du show business et de la TV qui fonctionnent avec des agences. Puis moi, je serais très, 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 très rébarbatif à ce que un de mes kids me dise hey, « j'aimerais ça aller sur un plateau de TV, devenir acteur, puis ainsi de suite. » Puis qu'à partir de 12 ans, je le laisse partir avec un René Angélil ou pour faire ce genre de ouais, carrière-là. Moi, je trouve ça trop jeune.
Si c'est ce qu'il rêve de faire.
Ouais.
S'il y a le talent pour.
Je vais essayer de...
Travailler sur toi-même.
Non, en fait, j'essaierai de rester en contrôle. J'aurais beaucoup de misère à confier mon enfant à d'autres personnes dans ce contexte-là. Ça me dérange autant personnellement pour des kids qui font du show business. Moi, mes flots, ils joueraient pas là, dans le bye-bye du lait, là.
Ils sont si drôles.
Oh, oui, ils sont bien drôles. Puis le flow, il est bien bon. Là. Il doit scorer des top-nets puis des Michigans à côté. Là. Mais... Je sais pas, j'ai un malaise. Ouais, ouais. C'est peut-être juste moi le problème aussi. Là. Il est 16h38 à Boulevard 102, c'est Gravel dans le retour. Gravel. C'est déjà cette semaine la Winter Classic de Boulevard 102.1. Le 19 mars, ce jeudi 19h au Centre de glace Intact Assurance. Venez triper avec nous autres, notre version de la Winter Classic. Des animateurs, des membres de l'environnement de Leclerc Communication qui vont sauter sur les patins pour essayer de montrer qu'ils sont encore capables de jouer au hockey. Toute la gang de Boulevard va être là d'une façon ou d'une autre. Je serai l'annonceur maison de ce match.
T'es vraiment bon en plus.
Ben là, je pense que je suis un gars qui a le lucky shot. Tu sais, je vais jouer au dart pour la première fois, je vais faire un gros score.
La chance du débutant.
Je vais jouer au hockey pour la première fois, je vais faire un gros score. Et le reste de ma vie, je ne serai plus jamais capable de remonter à cette hauteur-là.
Ben, franchement.
Fait que là, j'ai l'impression que je vais être full mauvais comme annonceur cette année parce que ça avait bien été l'année passée puis ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Bref, venez faire du bruit, venez mettre de l'ambiance, venez prendre une broue ou deux avec nous autres du côté du Centre de glace Intact Assurance à compter de 19h avec les essoufflés de Boulevard, ça c'est nous autres, qui vont affronter les pelleteux de Bellechasse, une gang de chums qui joue du comté de Saint-Damien. On dit qu'ils sont un peu overweight, eux autres aussi, ce qui nous donne peut-être des chances.
C'est force égale. Hein?
Ouais, mais à chaque fois, à chaque année, ils disent « Ah, on n'est pas vite, on n'est pas bonbon, ça arrive, ça a glace, tabarnouche. » On se fait clencher, puis nos gars...
Ridiculisé.
Ben oui, puis on a moitié de nos gars qui sont blow-out après le réchauffement. Fait qu'imagine quand le match commence. Donc, c'est un rendez-vous cette semaine, jeudi soir, au Centre de glace Intact Assurance. Soyez-y, mesdames, messieurs. Audrey.
Il y a quelques problèmes encore dans la circulation capitale direction Est entre Robert Bourassa et Laurentienne, c'est pas terminé. Semble y avoir un incident sur Robert Bourassa direction Nord, juste avant Wilfrid Amel. Si jamais vous avez des détails, là, j'en ai pas encore sur le 511, mais ça ralentit dans ce coin-là. Henri IV Nord, à partir, je vous dirais, de la capitale en montant, il y a un léger ralentissement inhabituel. Dans le coin de Val-Bélair, devant l'avenue industrielle, c'est toujours pas réglé non plus. Devant la base militaire, route de la Bravoure dans les deux directions à Shannon, au ralenti. Route de Fossambeau entre des Érables et de la Jacques-Cartier, c'est pas terminé. Et pour ce qui est d'Henri IV Sud, ben c'est le classique. Là, à partir de Versant Nord, on sent un ralentissement jusqu'à l'entrée des ponts. Du Plessis Sud, c'est de chemin Sainte-Foy au pont La Porte. Et sur la 20 direction ouest, c'est concentré surtout entre chemin des Îles et Taniata. Si vous voyez autre chose, il y a un numéro, c'est le texto 88-971-1021.
Véro, dans l'actualité et tout ce qui se passe et ce qui se brasse autour de nous autres et autour de vous autres en ce lundi 16 mars.
Le Soleil nous rapporte qu'une bagarre à la prison de Québec a envoyé 4 agents correctionnels du côté de l'hôpital. Ce serait arrivé aux environs de 10 heures. Il y a un seul détenu qui est gardé dans le secteur de protection d'établissement qui est impliqué. C'est pas la première fois que cet individu-là attaquerait du personnel qui a un bon historique en la matière. Puis tout ça a commencé quand on l'aurait vu sur les caméras en train de voler des effets personnels à un autre prisonnier alors qu'il circulait. Il y a un agent donc qui surveillait, qui a vu ça, qui l'a signalé. Et le personnel de plancher a été appelé à intervenir. Puis ils étaient 5 à intervenir. Puis c'est à ce moment-là que l'homme s'est désorganisé, a porté des coups vifs. On parle d'un employé qui aurait été assommé à la tête, d'une bouteille de poivre de Cayenne qui aurait éclaté. Ça a pris quelques minutes à peine, mais quand même, ça a fait des ravages. Lui aurait été envoyé en cellule de réclusion. Il doit maintenant être menotté de dos, escorté par 4 agents correctionnels avec des chaînes aux pieds en tout temps, avec caméra pour les agents. Bien sûr, vous comprendrez qu'il va y avoir un suivi en lien avec cet événement-là. Gros dossier aussi d'un gars dont on a déjà parlé, Blake Charbonneau. Lui a été arrêté il y a 3 ans de ça au Mexique. À ce moment-là, il était le fugitif le plus recherché. Et aujourd'hui, après plusieurs années de procédure, il a plaidé coupable à 25 accusations pour des gestes posés sur une période d'une dizaine d'années, essentiellement toutes des dossiers d'agression sexuelle et de proxénétisme. C'était une suggestion commune le 13 ans de prison. Puis parmi les accusations, là, il y a 5 des chefs d'accusation qui étaient agression sexuelle armée, il y en avait 2, 3 de contact ou d'incitation à des contacts sexuels sur une mineure et une douzaine de chefs qui étaient liés au proxénétisme. Puis il y a eu des femmes, des victimes qui sont venues témoigner de ce qu'il leur avait fait subir, parce que lui, il les rencontrait essentiellement sur des applications de rencontres. Ils se donnaient rendez-vous, mais dès qu'elles mettaient leurs limites, lui, il les dépassait. Fait que des relations qui étaient pas nécessairement consentante dans les gestes qu'il posait, le retrait du condom. Il essaie d'en étrangler une avec une ceinture. Je vous passe les détails parce que je trouve ça très, très lourd. Mais quel courage de ces femmes-là d'être allées témoigner aujourd'hui. Fait qu'il rentre en dedans, mais en plus de ça, on a demandé à ce qu'il soit évalué pour qu'il puisse éventuellement avoir un statut de délinquant à contrôler ou délinquant dangereux. Le courtier immobilier Simon Laberge s'est finalement excusé au maire Marchand la semaine passée. C'est une vidéo qui était publiée sur ses médias sociaux dans laquelle il avait utilisé le mot « malade mental ». Puis le sous-titrage et les propos qu'il tenait ne concordaient pas nécessairement. Le maire Marchand qui avait indiqué qu'il voulait porter plainte contre lui, mais qui avait aussi dit « s'il s'excuse, je retirerai ma plainte ». Le maire Marchand, qui est actuellement en mission dans l'Ouest, n'a toujours pas réagi. Mais à l'intérieur de son message d'excuse, il dit que l'erreur est attribuée à une agence de publicité qui était mandatée pour produire la vidéo, que lui, par contre, a erré. Il aurait dû revoir la vidéo avant sa publication, donc assurer un processus un peu plus rigoureux. Et il ouvre aussi la porte au maire à aller répondre aux questions des citoyens dans le cadre d'une ligne ouverte, parce qu'il dit que les réactions démontrent que les gens ont le goût de se prononcer par rapport au tramway et à l'abattage des arbres. Fait qu'il dit qu'en échange d'une ligne ouverte sur une station de radio du choix du maire, qui durerait de 30 à 60 minutes pour parler de ce dossier-là, il fera un don de 10 000 $ à un organisme caritatif, lui aussi, au choix du maire Marchand. Pas de réponse non plus de ce côté-là. Parlant de tramway, c'est le 21 mars qu'il y a des changements qui débutent sur certains parcours parce qu'il y a des travaux qui vont être entamés aussi.
Ça s'en vient, c'est la semaine prochaine.
Puis c'est beaucoup de stock. D'abord, on sait que le boulevard Hochelaga avait été élargi dans les dernières années pour prévoir l'arrivée du tramway. Il y aura des voies réservées qui vont être ajoutées dans les deux directions, le marquage qui va se faire éventuellement, mais les voies réservées vont arriver avant le marquage de l'asphalte. Les anciennes voies réservées, par contre, sur Laurier, elles vont redevenir accessibles aux automobiles, fait qu'on fait l'espèce de switch, là. C'est le métrobus 805 qui va remplacer le 800 et le 801 à l'ouest de la colline parlementaire. Ensuite de ça, pour René Lévesque, dès que les travaux vont débuter, ça va être pratiquement plus possible de transiter par René Lévesque entre l'Université Laval et la colline parlementaire. Fait qu'il y aura des voies réservées qui vont être transférées de René Lévesque vers Grande Allée, entre les avenues des gouverneurs, et de l'Aune. Autour du Grand Théâtre, il y aura des sens uniques qui vont être ajoutés sur différentes rues. Turnbull en fait partie, Jacques Parizeau aussi. Il y aura des zones de correspondance parce qu'on estime qu'il y aura plus de transferts d'autobus ou de prises d'autobus qui vont se faire dans ces secteurs-là. Puis il y aura un nouveau terminus dans le secteur de Saint-Roch, dans le secteur du parc Victoria. Puis il va être mis en service dès le 21 mars parce que ça aussi, ça va servir de point de correspondance pour plusieurs parcours.
D'ailleurs, ça devient tellement lourd qu'on a décidé de réagir rapidement. Puis je ne sais pas si Véro
a eu le temps de voir les changements de la programmation qui sont rentrés chez Leclerc Communication.
Indique-moi.
Donc, nouvelle programmation à Boulevard 102.1 à compter de lundi prochain. Ne manquez pas la chronique circulation de 6h à 18h avec Max Larouche et Audrey Pinchot.
Ah, ça va être bon. On a déjà commencé à travailler.
Oui.
Oui, on travaille fort. On a chacun nos parties de secteur.
Oui, vous avez vos cartes avec les petits fils rouges.
Ouais, on n'aura pas le temps de faire autre chose. Fait que non, ça va être push, oh, ça va être un bordel, mais on va vous tenir au courant.
Oui, puis en général, les gens s'ajustent, mais on le sait qu'il y aura des secteurs dans lesquels ça va être franchement plus difficile. Oui. Le Canada qui n'a aucunement l'intention de s'impliquer au détroit d'Hormuz, ça a été la sortie d'Ottawa.
Bien, tout le monde dit non, là. Je veux dire, Donald Trump est allé se mettre dans la marde. Bon. Tout seul, en Iran, en envoyant se faire foutre les pays de l'OTAN. Puis là, à cette heure, qui a fait un Poutine de lui-même, c'est-à-dire qu'il pensait gagner une guerre en 24 heures, puis finalement, ça marche pas comme il voulait. « Hey, gang! Hey, gang! Venez m'aider! Hey, va te faire foutre! »
Et là, c'est les critiques sur le prix de l'essence aux États-Unis. Et ça, on l'entend beaucoup moins souvent. Tu sais, on avait des comparatifs beaucoup. « Ah, nous autres, le litre versus eux autres au gallon, c'est moins cher aux États-Unis, ça n'a pas de bon sens. » L'émission Saturday Night Live a connu un creux important, mais depuis quelques années, on a repris certaines lettres de noblesse. Le premier sketch en fin de semaine, c'était une famille qui devait arrêter au poste d'essence. Puis ils disent, là, la famille, il faut qu'on ait un talk, là, parce qu'on a une décision sérieuse à prendre. Il faudra faire le plein. Puis ils se tournent vers leurs deux enfants. Va falloir qu'on laisse un de vous deux derrière. Mais tu sais, pour que...
Battez-vous à mort, on garde le plus
pour
fort.
Pour que le prix de l'essence devienne un sujet de conversation dans des émissions de fin de soirée, imaginez les commentaires que Donald Trump reçoit de proches, d'entreprises, de lobbies, de tout ce que vous voulez. Puis le détroit d'Hormuz, ce serait 400 pétroliers qui seraient coincés dans ce secteur-là. Déjà que de base, c'est 20 à 25 % de la production de pétrole mondiale qui y transite, ce qui a fait augmenter le prix. Tu sais, on frôle le 2$ à Montréal. Il est arrivé à Vancouver. On a eu, c'est quoi, d'une 79 qu'on nous disait à Québec qui avait été vu. Et là, c'est de dire aux pays de l'OTAN, là, venez m'aider, là, on va sécuriser le détroit puis on va recommencer le transport. Puis là, effectivement, tout le monde est en train de dire non. L'Australie, Londres, Berlin, t'as le Japon aussi qui a dit non. Et Donald Trump qui a répondu en milieu de journée aujourd'hui, « Nous n'avons besoin de personne. Ils devraient bondir pour nous aider parce que nous les aidons depuis des années. »
Denis, il va pas dans le puits, tu seras pas capable de remonter. Denis, il va pas dans le puits, tu seras pas capable de remonter.
J'ai pas besoin de personne.
J'ai pas besoin de personne. Allez vous faire foutre. Moi, je m'en vais dans le puits.
Audrey! Audrey! Pogné dans le puits. Je suis pas capable de remonter.
La fin, c'est que tu sais que moi, j'irai te chercher.
Ouais. Ça, je te l'ai demandé en premier.
Ouais, c'est ça.
En terminant, opération déneigement au courant des prochaines heures dans les secteurs de Charlebourg, la Cité-Limoilou, des rivières Sainte-Foy, Sillery, Cap-Rouge. La ville qui est en rattrapage parce que samedi, on avait décidé de ne pas faire d'opération déneigement. Puis que la semaine passée, quand on en avait une puis que ça flashait à grandeur de la ville, je pense qu'il y a à peu près la moitié des arrondissements où on n'a pas déneigé les artères. Et tout ça a refigé en fin de semaine. Puis c'est ce qui s'enligne au courant des prochaines heures. Je vous mentionnais un peu plus tôt que depuis hier, c'est légal de changer ses pneus d'hiver pour des pneus d'été. Il y a quelqu'un qui nous a indiqué sur le texto avoir vu un scooter sur la route de l'église.
Ça, c'est courir après le trouble.
Ah, mais non, mais j'étais bien, moi.
J'ai le droit.
J'étais très heureux.
Oh, c'était toi?
J'étais très heureux en scooter.
Le vent,
oui. 16h57 à Boulevard. C'est Gravel dans le retour.
Pour joindre l'équipe de Gravel... Dans...